Music Story.
Soft rock, just soft rock.
RTVFM.
Salut, salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Music Story Rock. Music Story Rock, l'émission rock et pop de RTVFM. Salut Willy, salut Jean-Pierre.
Bonjour Alain.
Bonjour Alain, bonjour Jean-Pierre.
Ravi de vous retrouver en dehors de l'émission des après-midi RTVFM pour justement animer cette nouvelle émission sur RTVFM, l'émission Music Story Rock. Et on a donc choisi de vous passer pas mal de morceaux des légendes du rock. On va essayer de vous faire plaisir, on va essayer de se faire plaisir. Et on commence par toi Jean-Pierre, avec un artiste peu connu.
Non, je crois pas. Michael Jackson, je pense pas qu'il soit connu, mais il démarre. Il paraît très... Oh, le pauvre. Alors, le morceau que je vous ai choisi, c'est You Rock My World. C'est un morceau qui est extrait de son 10e album et son dernier album studio. Alors, c'est Invincible 2001. Le morceau a cumulé à la 10e place du Billboard 100 et a été la dernière chanson du top 10. Il a atteint la première place en France, mais aussi en Pologne, au Portugal, en Roumanie et dans 10 autres, en 10e autre place dans d'autres pays. Michael Jackson ne l'a chanté que deux fois au Madison Square Garden de New York lors de ses concerts du 7 et du 10 septembre 2001.
Merci Jean-Pierre, on écoute donc Michael Jackson, You Rock My World, et à tout de suite, on se retrouve juste après.
Music Story.
Soft rock, just soft rock on your radio.
RTVFM.
The same, girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
Come on, 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 come on
Voilà, c'était le King de la pop, bien sûr, vous l'avez reconnu, Michael Jackson, qui écrivait pas moins de 100 chansons pour n'en retenir que 15 sur chaque album. Il est même allé sur 121 morceaux écrits pour un album, alors je ne sais pas lequel, mais paraît-il qu'il allait étaler jusqu'à 120 morceaux, ce qui est quand même énorme, cet artiste d'en écrire 100 pour n'en retenir que 15.
Nouvelle émission, mais tu l'as bien travaillé.
Ah, je l'ai bien déjà travaillé.
Déjà,
au départ. Ah, oui, très fort. J'avais une anecdote à vous livrer, je vous la livre.
Excusez-moi du coup.
Gratuitement. Oh, merci Alain. Allez, à mon tour. Stephen Lawrence Winwood, né à Birmingham, est un chanteur, compositeur et multi-instrumentaliste britannique. D'abord membre de Spencer Davis Group de 64 à 67. Il fonde ensuite Traffic, puis Blind Faith, avec entre autres Eric Clapton, rien que le monsieur, avant de se lancer en solo en 1977. En Angleterre, il fait partie très jeune de la scène rhythm and blues de Birmingham, en jouant de l'orgue Hammond et de la guitare derrière de grands noms du blues comme Johnny Hooker, B.B. King, Chuck Berry, entre autres, sur leur tournée britannique. Trop jeune pour travailler la nuit, il n'a que 17 ans à l'époque, il est souvent contraint de jouer dos au public. En 1977, sort enfin son premier album solo, baptisé tout simplement Steve Winwood, suivi en 1980 de Ark of a Diver. C'est un plongeur, en fait, Diver. Ces deux premiers albums sur lesquels Steve joue l'ensemble des instruments sont enregistrés dans sa maison et non en studio. Sans trop faire de bruit, Steve Winwood continue à donner des concerts dans le monde entier. Le titre que je vous propose est extrait de ce deuxième album, Ark of a Diver. Ce titre a été repris, entre autres, par Joe Cocker en 1999 et Petula Clark, beaucoup plus étonnant, en 2016. Donc Steve Winwood avec While You See a Chance. Tout de suite.
Music Story.
Soft Rock on your radio.
Unwood, qui aura 73 ans déjà en mai de cette année. Voilà, Steve Unwood, quelqu'un qu'on n'entend plus trop dans les radios, mais que nous, on aime bien, RTVFM, et ça fait partie des papis du rock. On se projette en 1975 avec Bruce Springsteen, le grand, le boss, comme on l'appelle. Quand Bruce Springsteen prépare Born to Run, son troisième album en 2 ans, il a une idée derrière très précise, une idée derrière la tête de ce qu'il veut faire. Il veut un son à la Phil Spector, des textes à la Dylan et des guitares à la Duane Eddy. Rien que ça, perdu, Born to Run est un album qui sonne comme du Bruce Springsteen. Et une petite anecdote le concernant avant d'envoyer justement Born to Run, c'est qu'une dizaine d'années après donc ce titre, Springsteen va se retrouver pris au piège de l'album Born in the USA. Les ventes seront certes colossales grâce au tube Dancing in the Dark, Born in the USA, Cover Me, I'm on Fire, Glory Day et bien d'autres. Et ils resteront tous classés au top 10 aux États-Unis. 7 chansons donc de l'album seront classées au top 10 pendant plusieurs semaines. Ouais. Mais à tous ceux qui prirent le titre Born in the USA au premier degré, il fallut lui expliquer que loin d'être une chanson patriotique, elle narrait le retour au pays et le désespoir d'un vétéran du Vietnam. On écoute.
Oh là 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 là.
Et on écoute.
Soft rock, just soft rock.
Music Story.
Machines sprung from cages on high.
des Bruce Springsteen qui a sorti mardi 27 septembre de l'année dernière 2021 son autobiographie intitulée comme le titre d'écouter Born to Run aux éditions Albin Michel.
Et qui vient de se remplir son compte en banque puisqu'il a vendu tous les droits de ses albums.
Exactement. Oui, tout à fait.
Allez Jean-Pierre.
Jean-Pierre, c'est à toi.
Oui, vous venez de les demander, mais je crois qu'ils arrivent. On parle du groupe Police, messieurs. Alors le morceau que je vais vous faire écouter, c'est il est sorti en septembre 1980, single principal de leur troisième album. Il a été le single le plus vendu en 1980 au Royaume-Uni. Le morceau s'est trouvé classé dans le top 10 en Australie, Canada et aux États-Unis. Le groupe Police a remporté le Grammy Awards en 1982 pour la meilleure performance rock en duo. Donc je vous propose d'écouter Don't Stand So Close to Me.
De voilà, Police. C'est dit Jean-Pierre, c'est parti.
Dit. Merci Jean-Pierre.
100% souvenir.
100% souvenir.
100% plaisir.
RTVFM. Intensément musique.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly. Knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age.
À l'instant, et justement une petite anecdote sur Police. La chanson Des Do 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 Des Da Da Da, présente sur le troisième album de Police, a été écrite par Sting dans l'idée de faire une chanson dont les paroles n'avaient pas de sens. On s'en serait douté, à l'instar du classique de certains autres classiques. On s'en serait douté que ça n'avait pas de sens. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que c'est son fils Joseph, alors âgé de 4 ans, qui a eu l'idée du titre.
Le fils à Police ?
Non, à Sting. Il a eu l'idée du titre. On ne s'étonne pas parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et dernière anecdote, Sting, ils ont commencé leur carrière, ils étaient c'était punk. C'était des punks, ils faisaient du punk à l'époque. Hein, donc c'est vrai qu'on connaît cet album, tous les albums après n'ont plus rien à voir avec du punk. Mais c'était du punk. Voilà une de nos anecdotes sur Police.
Bon, moi je ne pars pas sur la punk. Hein. Pas du tout. Vu que c'est l'émission soft rock, on va pas partir sur la punk. Le groupe Creedence Clearwater Revival, également appelé CCR pour les connaisseurs, était un groupe de rock américain formé à El Cerrito en Californie. Oui, j'ai pris l'accent italien, italien ou espagnol, mais en fait c'est américain, en Californie, en 1967. Le groupe était composé du chanteur principal, du guitariste principal et du principal auteur, ça fait beaucoup de principaux, auteur-compositeur John Fogerty, son frère, le guitariste rythmique Tom Fogerty, le bassiste Stu Cook et le batteur Doug Clifford. Mais ses membres avaient joué ensemble depuis 1959, d'abord en tant que Blue Velvets et avant de s'installer sous le nom de Creedence Clearwater Revival en 1967. Le groupe sera dissous en 1972 dans la bataille judiciaire entre les membres. John Fogerty a d'ailleurs refusé de jouer avec les deux autres membres survivants lors de l'intronisation de Creedence en 1993 au Rock and Roll Hall of Fame, un musée et un temple du rock situé au centre-ville de Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. Le style musical de CCR englobait le roots rock, le swamp rock, le blues rock, le rock sudiste, le country rock et la soul. Du rock dans tous ses états, quoi. Voilà, à peu près. Il faudrait une émission complète pour parler de ce groupe. J'ai donc résumé l'essentiel. Le titre que je vous propose est extrait de leur deuxième album, Bayou Country, de 1969, et un titre qui a été repris en 1971 par Madame Tina Turner. Vous allez le reconnaître, bien sûr. Creedence Clearwater Revival avec Proud Mary.
RTVFM, vous ne pourrez plus jamais écouter la radio comme avant.
savez-vous d'où vient justement le nom de Creedence Clearwater Revival que nous venons d'écouter?
Non.
Eh bien, je vais vous l'apprendre, je l'ai appris, je vous rassure, moi aussi. Il vient de la combinaison de trois choses. Creedence, qui fait référence à la crédence, tout simplement. Clearwater est une marque de bière. Bah oui.
Ah bah tiens.
Et Revival montre la volonté du groupe de raviver sa bonne fortune.
Eh bah tiens, bah voyons.
Ben voilà.
Bon, tu me diras, après la traduction, oui, ça correspond.
On remonte un tout petit peu les années pour aller en 1967. Je vous parlais de Jimi Hendrix Experience, dont l'album Are You Experience. Et je vais vous parler un petit peu donc de cet artiste. L'arrivée donc de l'américain Jimmy à Londres fin 1966 à l'initiative de Chas Chandler, ex-bassiste des Animals, devient manager, créa un véritable séisme. Les trois guitaristes virtuoses anglais du moment, Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page, tous trois passés par les Yardbirds, se payèrent à cette occasion un sérieux coup de déprime. Effectivement, quand on écoute Jimi Hendrix, c'était quand même quelque chose. La parfaite maîtrise de l'instrument ne serait rien sans une vision, une inspiration qui doit beaucoup à ses longues années de formation. Jimmy a joué du blues, du baloche, que je connais pas ce que c'est
le baloche,
de la soul, oui. Du rock, n'importe quoi, pour croûter, comme il disait à l'époque, il a besoin de croûter. En tout cas, il nous a fait une carrière très courte, mais des choses extraordinaires. Donc, je vous propose d'écouter le titre de Jimi Hendrix extrait de l'album Jimi Hendrix Experience, qui s'appelle All Along the Watchtower. On écoute.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, come and dig my earth. None will level. Nobody of it is worth. Hey.
c'était bien sûr Jimi Hendrix et Johnny Hallyday. Ben, il faut le rappeler qu'il fut l'un des premiers fans de Jimi Hendrix qu'il découvrit à Londres au club Blaze le 29 septembre 1966. Il l'engagea aussitôt pour assurer la première partie de son nouveau spectacle à l'Olympia le mois suivant. Et l'anecdote nous raconte que le Jimi Hendrix Experience formé à cette occasion joua seulement 3 titres devant un public totalement indifférent, alors que 8 mois plus tard, en juin 67, Jimmy est invité au Festival Pop de Monterey en Californie et on connaît la suite. Il brûle sa guitare, il met le feu sur la scène, il met le feu dans le public, il réussit un coup fumant. Le lendemain, l'Amérique qu'il avait rejeté était à ses pieds.
Mais comme il n'avait pas de briquet, justement.
Mais, quoi, ouais. Il a mis le feu ce soir-là, comme quoi en France, ça n'avait rien donné du tout. Mais il a mis le feu à l'Amérique. Voilà, c'est des anecdotes.
Oh, en France, il y a eu quand même à l'Olympia ceux qui ont cassé les guitares et qui ont cassé tous les...
Oui, mais là, ce soir-là,
les Beatles.
Mais en première partie de Jimi Hendrix, ça n'avait rien donné du tout. En première partie de Johnny Hallyday, ça n'avait rien donné du tout, par contre.
Des
choses qui arrivent. Allez, Jean-Pierre, je crois que c'est à toi, si je dis
pas. Eh bien, oui, on va essayer. Alors, je vous propose David Bowie avec Queen. C'est un extrait de l'album Ospas qui a été enregistré en juillet et sorti en octobre 1981. Donc, il a été écrit en collaboration tous les deux avec Queen et David Bowie. Elle rencontre un très grand succès à sa sortie. Numéro des ventes au Royaume-Uni, elle trouve sa place au top 10 dans de nombreux pays européens. En 1981, Queen cherche un peu de repos et David Bowie, pareil, se trouve dans une période creuse. Leur rencontre donne lieu à une session de reprise et finalement, il réalise ce morceau. David Bowie en a écrit les paroles. Alors, une particularité avec David Bowie, c'est qu'il a les yeux anisoquois, c'est-à-dire qu'il a un œil bleu et un œil marron. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
Comme les verrons.
Mais voilà.
Les yeux verrons.
Voilà, tout c'est ça. Donc, je vous propose Under Pressure.
Allez, les trois, Bowie, Queen et Annie Lennox.
C'est parti.
100% plaisir.
Just soft rock.
Music Story.
A building down, splits a family in two, puts people on the streets. That's okay to tell knowing what this world is about. Watching a good friend screaming, let me out.
Give love, give love, give love, give love.
Sur Queen, David Bowie, Annie Lennox. Et trois petites anecdotes, tiens, concernant le groupe Queen. Tous les membres de Queen ont fait de longues études. Comme quoi, ah, vous voyez, la musique, ça mène à tout. Deuxième anecdote, le logo du groupe Queen a été dessiné par Freddie Mercury et représente les signes astrologiques des membres. Ouais. De chaque membre. Et la troisième, Brian May, donc le guitariste, ben, il avait fabriqué lui-même sa guitare. Il jouait son guitare, il l'a entièrement fabriqué. Donc on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il s'est dit, moi les guitares ne me conviennent pas, il a construit de la sienne. Comme quoi, voilà.
Et pourtant, il y en a des bonnes. Hein. Bon, enfin bon. Voilà. Non, mais comme tu as dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Allez, qui n'a pas entendu un titre de ce groupe américain de blues rock, originaire de Houston au Texas ? Il connaît le sommet de sa célébrité dans les années 70 et 80. Oui, merci Alain. Mais toujours sur les planches. Le groupe a la mythique Ford modèle V8B rouge coupé de 1933. Mais oui, ça y est, vous avez deviné, c'est bien ZZ Top. Et il faut prononcer ZZ, attention. Autre particularité du groupe, les deux guitaristes ont des barbes jusqu'au milieu de la poitrine alors que le batteur a une simple moustache. Petit détail insolite, en 1984, la société Gillette leur propose $1 million pour tourner dans un spot publicitaire dans lequel ils raseraient leur barbe. Eh ben, ils ont refusé. $1 million, ben dites donc. Le groupe est formé le 20 juin 1969 par Billy Gibbons, chanteur et guitariste qui vient de se faire offrir une guitare Fender Stratocaster par Jimi Hendrix. Rien que ça. La formation demeurera inchangée durant plus de 50 ans jusqu'à la mort de l'un des musiciens du Steel Hill le 28 juillet 2020. 21, ce n'est pas très loin. Il est alors remplacé par le technicien guitariste du groupe Elwood Francis. L'origine légendaire de leur nom serait qu'ils ont pris ce nom pour que leurs albums soient toujours les derniers dans les bacs à vinyle à l'époque. Et oui, de tous les disquaires, le classement des bacs étant le plus souvent alphabétique. Donc, hop là, il est en dernier. C'est pas bête du tout en fin de compte. Le groupe a vendu près de 70 millions d'albums à travers le monde à ce jour et produit 15 albums entre 1971 et 2012. Je vous offre l'un de leurs titres les plus connus, ZZ Top, donc, pour ne pas me tromper, avec Gimme All Your Loving. C'est parti.
Bienvenue en plein cœur de la musique. Flashback souvenir. Ambiance.
RTVFM.
Not too bad, it's
qu'est-ce que c'est bon, les ZZ Top.
Zizi.
Les Zizi, les ZZ, les ZZ Top. En tout cas, le chanteur et guitariste Billy Gibbons et Ducey Hill n'ont pas toujours porté une longue barbe. Et voilà, c'est la question qu'on se posait. On cherchait ça pendant le morceau et on a trouvé la réponse. Après un break de 3 mois en 1977, ils ont décidé donc de faire ce fameux break 3 mois pour souffler après 7 années passées sur la route. Et c'est là qu'ils ne se sont pas rasés.
Ah ben voilà,
et là ils ont laissé pousser.
Non, c'est là qu'ils ont perdu leur gilette.
Et ils ont dû perdre leur. Mais ils ont laissé pousser leur barbe à partir de là. Donc au départ, ils n'avaient pas la barbe.
Merci Alain.
On se posait la question, on s'est dit, mais est-ce qu'ils ont toujours eu la barbe? Ben non, pas toujours.
Heureusement qu'on t'a au micro. Hein.
Allez, maintenant je vais parler de 4 jeunes dans 1965, les Who. Alors eux, ils ne se laissaient pas pousser la barbe, hein, bien au contraire. Les Who étaient sincèrement fiers de leur origine. Il n'était pas rare de les voir. De voir ces authentiques dandies, Motts portait des costumes imitant l'Union Jacks, le drapeau britannique. C'est aussi l'époque où Moon et Townsend démolissaient qui sa batterie, qui sa guitare et son ampli à la fin de chaque concert. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils ont failli être ruinés à un moment donné à force de tout casser.
Eh ben tiens.
Par contre, le futur auteur de l'opéra rock, Tommy, Pete Townsend, l'histoire sordide d'un gamin sourd, muet et aveugle, souffrait lui aussi d'un terrible handicap. Son nez. Donc Pete Townsend, il souffrait de son handicap, son nez, son énorme tarbouif. En interview, Townsend s'est un jour lâché. Ce putain de tarin a été le grand problème de mon existence. J'ai tout fait à cause de mon nez. J'ai appris à jouer de la guitare à cause de mon nez. J'ai écrit des chansons à cause de mon nez. Et j'ai commencé à faire le dingue total sur scène dans une sorte de manœuvre pathétique en pensant faire oublier mon nez. Et voilà comment, après avoir recruté un chanteur teigneux et bagarreur, un batteur incontrôlable et un bassiste hyper inventif, Townsend s'est embarqué dans une aventure qui symbolise la libération d'une jeunesse issue des classes populaires. Et voilà comme quoi des fois les choses.
Hein. Ça s'accumule.
Eh oui, en tout cas, on écoute le morceau des Who, My Generation.
Faites bouger votre radio.
RTV FM à Carpentras sur le 102.2. Écoutez-nous sur le web. www.rtvfm.net.
What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Talking about my generation. Things ain't doing awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. We'll be right back.
C'était My Generation, The Who, du titre du même album My Generation de 1965. Et concernant Moon et Entwist, ils sont morts. Townsend et Daltrey ont désormais passé largement les 70 ans et le pauvre Daltrey, lui, il n'entend plus du tout, malheureusement. Mais les chiffres n'ont aucune importance. Ils ne sont jamais devenus vieux. C'est le principal.
Ils sont pas et comme oui, nous.
Ils ne deviendront jamais vieux. Ils resteront toujours, voilà, toujours à la mode. Les Who, à toi Jean-Pierre.
Oui, alors maintenant, je vais vous présenter Tina Turner. Bon, elle chante avec David Bowie. Alors, elle est née en 1939 dans le Tennessee. Depuis 2013, elle réside en Suisse. Elle a commencé sa carrière vers 1957-1958 avec les King of Rip d'Ike Turner. Puis au sein du duo Ike et Tina Turner. Ils se sont dissous en 1976. Tina Turner est une artiste des plus populaires du monde avec des ventes de disques de plus de 10 millions. En 2009, elle a pris une retraite bien méritée et on trouvera une suite sûrement dans une prochaine émission.
Et ouais. Et le morceau, c'est ?
C'est Tonight.
Ok, on écoute. Tonight. On écoute.
Merci. Oh là là.
Tonight, voilà un morceau tiré de la comédie musicale West Side Story de 1957. Eh bien oui, il fallait le savoir. Ça tout simplement, c'est une reprise. Ça nous, ils ont repris ça dans les années 80-81, donc ils ont repris ce morceau, Tina Turner et David Bowie. Mais c'est extrait de West Side Story.
Eh ben moi, c'est un groupe. Hein. C'est pas ni une femme, ni Bowie. Lui, vous avez les deux. T-Rex est un groupe britannique de folk, puis de rock, formé à Londres à la fin des années 60 par le chanteur, guitariste et compositeur Mark Bolan. Initialement connu sous le nom de Tyrannosaurus Rex, ils raccourcissent leur nom en 1970 pour coïncider avec un changement de style dans leur musique. Ils passent d'un folk expérimental à un rock plus électrique qui va tout de suite séduire un public plus large. Les albums électriques Warrior en 71 et The Slider en 72 rencontrent un grand succès au Royaume-Uni au point que la T-Rex Mania devient le premier phénomène musical à atteindre une telle ampleur dans ce pays depuis la séparation des Beatles en 1970. Le succès sera de courte durée puisque Mark Bolan disparaîtra le 16 septembre 77 dans un accident de voiture à Londres, ce qui marque la fin également de l'aventure T-Rex. En 72, à la fin d'un différend avec la maison de disques, Mark Bolan décide de sortir la compilation Bolan Boogie qui regroupe une sélection des titres de Tyrannosaurus Rex et de T-Rex en même temps, comportant notamment des faces B chères aux chanteurs, comme la reprise de Summertime Blues d'Eddie Cochran. Des décennies plus tard, T-Rex séduit un nouveau public avec le film Billy Elliot, dans lequel les personnages principaux écoutent en boucle les disques du groupe, qui produit quand même 12 albums entre 68 et 77. Je l'ai nommé depuis le début, donc T-Rex, avec un petit mot qu'il avait envoyé à son copain ou copine Sam. Telegram Sam, c'est parti.
100% souvenir.
100% souvenir.
100% plaisir.
RTVFM. Intensément musique.
Golden or slim, golden or
c'était bien sûr T-Rex. Alors concernant T-Rex, ils ont eu un rapport avec Ringo Starr, lequel vous allez le savoir de suite. Ben, il est crédité comme le photographe de la pochette avant et arrière du troisième album de T-Rex. Ouais, Ringo Starr. Mais il était photographe aussi, Ringo Starr. The Slider, donc en 72. Le batteur des Beatles a également réalisé le documentaire Born to Boogie, consacré également à ce groupe. Il les a suivis et puis voilà, il a fait des photos et ainsi de suite. Allez, maintenant on part sur l'année 1967. On va parler des Doors. Les Doors et l'album du même nom, The Doors. Enregistré fin 66, ce premier album des Doors, baptisé ainsi en référence au texte d'Aldous Huxley relatant ses expériences avec la mescaline, on s'en serait douté, s'installe à la deuxième place des charts américains dès les premières semaines de janvier 67 pour y passer très précisément 121 semaines d'affilée. Oula. Ce Ouah. Qui est énorme. Donc on ouais. écoute ce gros morceau des Doors, Light My Fire, et ça sera
le dernier
de se quitter. Voilà, le numéro 1 de cette émission est terminé. Et voilà. Ça passe très très vite. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec tous ces papis du rock.
Non. Ben,
si, les papis du rock.
Oh, on est soft. Hein.
Et nous sommes, nous, les papis de l'animation, donc on peut le dire aussi. Voilà. Donc, on est ravis en tout cas. On espère vous retrouver le prochain mois. Si vous avez des petites anecdotes à nous livrer, n'hésitez pas sur la page Facebook, www.rtfm.net, émission Music Story Rock. Et on se fera un plaisir de vous retrouver, Jean-Pierre, Willy et moi-même, le mois prochain.
Au revoir tout le monde. Au revoir Alain. Au revoir Jean-Pierre.
Bye. À la prochaine.
Allez aux Doors. Ciao, ciao.
Soft rock, just soft rock on your radio.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. I would be a liar if I was to say to you, girl, we could.